Bon. Allez, on a le petit quart d'heure poids de vin qui est passé. Merci d'être venus aussi nombreux. Il y a encore quelques places libres devant pour ceux qui préféraient entendre mieux ou voir mieux. Alors, ce soir, on va parler d'enfants hyperactifs, d'adolescents ayant des troubles de comportement. Et la question est de savoir si ce sont des troubles bipolaires en lien avec tout ça. Juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, ben, tout est écrit là. Alors, comment ça marche en deux mots? Deux fois par mois, deux réunions par mois plutôt, une réunion d'information et un groupe de parole. Réunion d'information, on va dire généralement en début de mois, sauf que la prochaine n'est pas en début de mois. Et c'est un soignant qui fait les réunions d'information, un médecin, un infirmier, psy, formé à l'ancienne. Et les groupes de parole, c'est entre nous, patients et proches, puisque l'association est ouverte aux personnes atteintes et à leur entourage. On explique au cours des réunions pourquoi on fait ça comme ça. Voilà. 18h30, et c'est dans la banlieue de Poitiers, pas loin du tout, assez accessible par le bus, et il y a du parking. Voilà, donc on ne va pas en dire plus sur ça. Là, on quitte par F6. Bon, j'ai déjà dit le thème. Alors, on m'a signalé il y a deux ou trois jours une émission de télévision qui va tomber en plein dans le sujet. C'est sur Arte à 23h35 et c'est demain soir. Et le thème, c'est « Enfants sous pilule ». Alors ça, c'est le chapeau du journaliste. Bon. On peut en penser ce qu'on veut. Le titre de l'émission, c'est « Les enfants et les psychotropes ». Et le chapeau, c'est « Le chiffre semble à peine croyable. Aux États-Unis, au cours de la dernière décennie, le nombre des enfants diagnostiqués maniaco-dépressifs ou bipolaires a augmenté de 4 000 %. C'est un chiffre étonnant, effectivement. Ce phénomène s'accompagne d'une forte croissance de la prescription de psychotropes, plus de 250 % en quelques années. Voilà, on est en plein dedans. Je remercie le docteur Dubus d'avoir répondu à notre invitation et au thème de la conférence. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Donc, on va... À la sortie, vous pourrez prendre un petit dépliant de l'association et nous répondrons, nous sommes 4-5 personnes de l'association, aux questions si vous le souhaitez. Alors, voilà, ici c'est... C'est là. Hein. À tout à l'heure. On devrait être sorti à 22h30, on est tous dehors.
Bien. Donc, bonsoir. Moi, Monsieur Lavignotte m'a sollicité pour vous parler ce soir des troubles bipolaires chez l'enfant et l'adolescent. Quand il m'a sollicité, j'ai accepté en avertissant sur deux points. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un des sujets les plus polémiques en pédopsychiatrie, qui provoque des débats houleux depuis de nombreuses années. Tous les mois, on a des études qui sortent, qui apportent des conclusions qui divergent les unes avec les autres. Et c'est extrêmement compliqué de se faire une opinion de la situation. Donc, le premier point, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à sortir de la conférence en ayant des idées claires, nettes, précises, carrées sur le trouble bipolaire de l'enfant. Vous n'en aurez pas après cette conférence. Le deuxième point, sur lequel j'ai averti M. Lavignotte, c'est que j'ai moi-même peu d'expérience clinique avec les enfants et les adolescents qui souffrent de troubles bipolaires. M. Lavignotte n'a pas eu l'air effrayé, malgré tout, par ce que j'ai annoncé, m'a demandé de venir quand même. Donc voilà, je suis là ce soir pour parler des troubles bipolaires et des enfants hyperactifs et des troubles du comportement qui peuvent être des diagnostics différentiels. Alors si j'ai vu peu d'enfants ou d'adolescents qui souffrent de troubles bipolaires, je suis un petit peu comme la grande majorité de mes confrères pédopsychiatres. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'accorde sur ce point. Le trouble bipolaire est exceptionnel chez l'enfant. On considère qu'il y a 3 enfants de moins de 13 ans pour 100 000 qui vont présenter un trouble bipolaire dans la population générale. Et chez l'adolescent entre 15 et 19 ans, on considérera qu'il y a 0,25% qui vont présenter un trouble bipolaire. Tout le monde est d'accord sur cette question. Pourquoi est-ce que ça fait polémique ? Parce que là, on parle du trouble bipolaire de type 1. Je vous rappelle juste brièvement ce que ça signifie. Le trouble bipolaire de type 1, c'est ce qu'on appelait auparavant la maniaco-dépression, c'est-à-dire des épisodes récurrents chez un même individu de dépression, avec au moins 5 symptômes pendant plus de 2 semaines, des épisodes de manie ou d'hypomanie, avec au moins 3 symptômes de manie pendant plus d'une semaine, et entre ces épisodes, des périodes d'intervalle libre où l'humeur va être plus stable et qu'on appellera période eutymique. Cette description du trouble bipolaire, on la retrouve dans le DSM-4, on la retrouve dans la CIM-10, qui sont les classifications internationales et qui sont des classifications qui correspondent à l'adulte. Finalement, absolument tous les pédopsychiatres sont d'accord sur ce point pour dire que c'est très très rare de retrouver une présentation aussi typique chez les petits-enfants. Et chez les adolescents, on en retrouve un petit peu, mais ça reste quand même très peu fréquent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y aurait polémique ? Il y a polémique parce que s'il n'y a pas d'état maniaque avéré chez les enfants au sens du DSM-4, on a en revanche beaucoup d'enfants de moins de 13 ans qui vont présenter un ou deux symptômes maniaques. Et que ces enfants-là, de la même manière, tous les pédopsychiatres s'accordent pour dire qu'ils existent parce qu'ils les rencontrent dans les consultations. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les pédopsychiatres. Tous les professionnels qui travaillent avec l'enfance vont être amenés à rencontrer des enfants présentant des symptômes d'agitation, des symptômes de logorrhée, des symptômes de fuite des idées, sans qu'on sache très bien quoi en faire. La polémique, elle vient, alors, de manière un peu schématique, en une division en 2 camps. Un camp qui dit, peut-être que les troubles bipolaires ils sont trop sélectifs, peut-être que les critères sont trop sélectifs, et il faudrait créer des sous-catégories pour les enfants et les adolescents. Et l'autre camp qui dit, il n'y a peut-être pas de nouvelle catégorie à créer. Peut-être qu'il faut s'interroger sur la signification de cette symptomatologie maniaque, notamment parce qu'il y a d'autres diagnostics différentiels qu'on peut faire avec la symptomatologie maniaque, par exemple le trouble hyperactif, par exemple les troubles du comportement, et puis d'autres pathologies qu'on évoquera peut-être au cours de la conférence. Et puis surtout, la polémique, elle ne porte pas tellement, finalement, pour le plaisir d'avoir des joutes verbales, pour le plaisir de l'effort intellectuel, elle porte sur les conséquences pratiques que ça a pour les enfants. Parce qu'à partir du moment où on fait le diagnostic d'une bipolarité, qu'on dit « cet enfant, je suis persuadée qu'il a un trouble bipolaire », si on veut être cohérent avec soi-même, on va prescrire un médicament. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut. Et ce médicament, ça va être un traitement qui va être pris de manière quotidienne, et sur de longues années, a priori, sans qu'on sache à quel moment on va l'arrêter. Donc c'est absolument pas dénué de conséquences, de choisir de parler de troubles bipolaires chez un enfant ou pas. Alors moi, le but de cet exposé, comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas être de vous donner un parti pris ou des idées claires là-dessus, parce que je n'en ai pas. J'ai lu la littérature internationale ces dernières semaines, en préparant l'exposé, je me suis rendu compte que mes idées elles étaient encore plus confuses à la fin qu'au départ. La seule chose qui m'a semblé possible de faire ce soir, c'est peut-être de vous présenter quelques arguments de part et d'autre des camps pour mieux comprendre la controverse actuelle et que chacun puisse ensuite se faire son opinion et se documenter s'il veut en savoir davantage. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous expliquer la manière dont on travaille en pédopsychiatrie, parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde, et qui est important aussi dans la manière dont on va prendre en charge et comprendre la symptomatologie des enfants. Ensuite, parler des troubles bipolaires chez l'enfant et du lien éventuel qui peut exister avec les troubles hyperactifs, sachant que c'est une question extrêmement, extrêmement polémiquée. Et puis, de manière un peu moins longue, parce que justement ça fait moins débat, parler des troubles bipolaires et des troubles du comportement chez l'adolescent. Alors, la pédopsychiatrie, c'est une discipline jeune qui a commencé à prendre son essor en France entre les deux guerres mondiales et qui s'est vraiment développée dans les années 60-70, notamment avec la création, dans la plupart des grandes villes, de centres médico-psychologiques. C'est une discipline qui se caractérise par la rareté des urgences vitales et le fait que la très grande majorité de nos patients, nous les rencontrons en consultation et pas en hospitalisation. C'est une discipline frontière sur plusieurs plans. D'abord au niveau médical, parce qu'elle a la frontière de la psychiatrie, de la pédiatrie, et puis au niveau des sciences humaines aussi. Elle est proche de la psychologie de l'enfant. On est obligé, quand on est pédopsychiatre, de s'intéresser aux sciences du développement, donc aux neurocognitions, à la systémique, au behaviorisme, etc. Et puis, par les cas concrets qu'on rencontre dans notre pratique clinique, on est forcé de s'intéresser à un moment ou à un autre à la sociologie, à l'ethnologie. On a des questions éthiques, ça, comme finalement beaucoup de professionnels. Et parfois, on est obligé de s'intéresser à la philosophie. Donc, c'est une discipline qui peut être très vaste, qui est très intéressante et qui est marquée par de multiples courants. Alors, elle est proche de la psychiatrie, c'est un petit peu normal, on l'entend dans le titre, parce qu'effectivement, elle s'occupe de la prévention des diagnostics et des soins des troubles mentaux chez les sujets âgés de 0 à 18 ans. Elle a aussi beaucoup de points communs avec la pédiatrie. Alors, je vais vous en détailler quelques-uns. D'abord, comme en pédiatrie, l'observation de l'enfant est primordiale. D'abord, parce qu'on s'occupe d'enfants qui sont parfois petits, qui ne peuvent pas beaucoup s'exprimer verbalement et qui auront des difficultés à vous parler de leur ressenti. Si vous leur demandez c'est quoi ton ressenti, vous allez avoir un silence terrorisé en général ou un enfant qui va s'agiter. Vous allez, au niveau de l'observation, vous intéresser aux mimiques, à la posture, à la manière dont l'enfant va occuper la pièce, à la manière dont il joue, aux relations qu'il peut avoir avec ses parents, qu'il peut avoir avec les autres enfants si vous le voyez en compagnie d'autres enfants. Et toute cette observation va vous apporter des signes indirects pour mieux comprendre la symptomatologie dont souffre l'enfant. De la même manière, cette observation peut parfois vous donner des vrais signes d'appel. Par exemple, un enfant prostré, ça peut être un enfant qui est angoissé, un enfant qui est déprimé, un enfant qui a mal. Et à partir de cette constatation, vous allez pouvoir rechercher d'autres signes pour affiner votre diagnostic. Et ça, un enfant petit ne pourra pas forcément dire « j'ai mal » ou « j'ai peur » ou « je suis triste ». Le deuxième point commun avec la pédiatrie, c'est qu'on fait aussi beaucoup confiance à la nature. On sait qu'un des alliés les plus puissants du pédiatre ou du pédopsychiatre, c'est la force d'évolution, la force de croissance. C'est pour ça qu'on ne va pas toujours se précipiter sur le symptôme. Un pédiatre, quand on lui amène un enfant qui a une fièvre et s'il n'y a pas d'autres symptômes, en général, il ne va pas se précipiter sur les examens complémentaires ou sur les antibiotiques à mettre en perfusion. S'il n'y a pas d'autres signes alarmants, il va plutôt surveiller l'enfant, accompagner, et puis si ça persiste un petit peu, à ce moment-là, pensez à des examens complémentaires. En pédopsychiatrie, c'est un petit peu la même chose. On considère que l'évolution, ça doit se faire par stade et que le changement, le passage d'un stade à un autre, il ne se fait pas toujours très facilement. Il peut y avoir des réactions de stress, des réactions d'angoisse, des réactions de tristesse quand on passe d'un stade à un autre. Et ça, ce n'est pas forcément pathologique. C'est pour ça que parfois, on peut considérer que les pédopsychiatres ont une attitude un peu attentiste parce qu'effectivement, on aura besoin de plusieurs consultations pour évaluer s'il s'agit de quelque chose qui va passer tout seul, ou bien s'il va falloir donner un coup de main à l'enfant et à sa famille pour qu'il y ait moins de souffrance. De la même manière, un peu dans cette idée de la force d'évolution, comme les pédiatres, on va être très méfiant, enfin méfiant c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas très prudent par rapport aux médicaments. Le but c'est quand même de donner le moins possible de médicaments. Et un médicament qui va être donné, ce sera fait avec beaucoup de circonspection et en ayant bien évalué qu'on avait un bénéfice qui soit supérieur au risque. Enfin, le dernier point commun avec le pédiatre et de manière générale avec les professionnels qui travaillent dans le monde de l'enfance, on est absolument obligé de travailler avec les parents. Et ça pour des multiples raisons. La première, c'est qu'en général, c'est les parents qui ont repéré le symptôme et qui vont vous amener l'enfant. C'est eux aussi qui observent le symptôme en premier et qui l'observent pendant plusieurs jours. Souvent, dans le bureau, l'enfant il présentera aucun trouble, surtout pendant les premières consultations. Il va être un peu dans une inhibition anxieuse ou dans une façade. Et c'est vraiment en écoutant les parents que vous pouvez vous représenter un petit peu ce qui se passe à la maison. De la même manière, les parents sont porteurs de l'histoire familiale et l'histoire individuelle de l'enfant que l'enfant ne va pas pouvoir toujours vous transmettre. Et ça, vous avez absolument besoin de parler avec la famille pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis, il y a un lien étroit entre les parents et les enfants dont il est nécessaire de tenir compte. D'abord, parce que ça va vous permettre de vous représenter quel rôle tient l'enfant dans sa famille, comment il peut considérer ses parents aussi. Et puis, de la même manière, si vous faites un soin alors que les parents ne vous font pas confiance, l'enfant ne vous fera pas confiance non plus. C'est vraiment très, très important qu'on puisse travailler avec les familles. Et de toute façon, pour faire un soin, il faut que l'accord parental soit donné. On n'a pas le droit de faire un soin contre un avis parental. Alors, de la même manière, l'école, on est souvent assez intéressé par ce qu'ils peuvent nous dire, à condition qu'on ait l'autorisation des parents de l'appeler. Parce que ce que peuvent nous dire les professeurs des écoles, c'est une observation de l'enfant dans un milieu extra-familial, nous expliquer comment il se comporte avec les autres enfants, ce qui est toujours riche d'informations, et puis nous donner aussi parfois un point de vue sur les connaissances, la manière dont il travaille à l'école et ce qu'il en est des compétences cognitives. Donc, concernant la consultation en pédopsychiatrie, dans la plupart du temps, elle est demandée par l'entourage. L'enfant n'a rien demandé et arrive accompagné de sa famille. Ces consultations, notamment les premières, c'est vrai qu'on va poser beaucoup de questions aux parents, alors, en essayant de ne pas être trop intrusif, mais ça peut être perçu comme intrusif. Si on pose autant de questions, c'est parce qu'on a vraiment besoin de se représenter le contexte dans lequel vit l'enfant. Ces consultations, elles servent à planter le décor, en fait. C'est un peu comme une pièce de théâtre, où la symptomatologie de l'enfant serait l'action de la pièce. Mais si on ne sait pas où ça se passe, qui sont les protagonistes, à quel moment et quels sont les événements qui ont amené cette action, on risque de rien comprendre. D'où, effectivement, des entretiens parfois assez longs. Et puis, quand on se retrouve seul avec l'enfant, c'est vrai qu'on utilisera beaucoup de médiateurs, le jeu, le dessin, notamment parce que pour un petit enfant, c'est difficile de reconnaître et de nommer ses émotions et que parfois, elles peuvent se révéler à travers l'utilisation du jeu ou du dessin et on peut parler autour. Ça, c'est vraiment des généralités sur nos consultations en pédopsychiatrie. Les buts de ces évaluations, c'est donc de déterminer d'abord si on est dans quelque chose de développemental ou de pathologique. Si on est dans quelque chose de pathologique, quel est le retentissement de ce symptôme et pour la famille et pour l'enfant, que ce soit dans la manière dont il se considère, que ce soit dans la manière d'utiliser les pensées, si ça peut devenir justement dangereux de penser, si ça interfère sur sa croissance, sur sa manière d'investir la scolarité ou les relations avec les autres. Et puis, un autre but de cette évaluation, ça va être de comprendre comment le symptôme s'est construit. C'est aussi pour ça qu'on va poser beaucoup de questions. Alors, à quoi ça nous sert de savoir comment ça s'est construit, ce symptôme ? C'est parce que, pour nous, il faut tenir compte absolument du mécanisme sous-jacent en fait, au symptôme, ce qu'on appelle la psychopathologie, comment les choses se sont formées petit à petit. Parce que la prise en charge, elle va devoir tenir compte de la psychopathologie. Juste éliminer le symptôme sans faire attention à ce qu'il y a en dessous, c'est prendre le risque que celui-ci réapparaisse d'une autre manière quelques temps plus tard. Et ça, pour comprendre la psychopathologie, on a besoin d'avoir des modèles théoriques, alors que chacun va choisir. Ça peut être de la neurobiologie, ça peut être psychodynamique, donc ce qui est un peu l'idée que il peut y avoir des obstacles pour passer d'un stade de développement à un autre. Ça peut être la systémique, qui considère la place de chacun dans la famille. Ça peut être les thérapies cognitivo-comportementales, etc. Souvent, ces modèles théoriques ont tendance à un peu se rentrer en conflit, alors que les approches sont plutôt variées et complémentaires, et qu'avoir des regards croisés sur un problème avec ces modèles théoriques peuvent amener justement une prise en charge plus individualisée et plus cohérente pour l'enfant. Et étant donné la complexité des situations qu'on rencontre en pédopsie, puisqu'on est obligé de tenir compte de tout un contexte, c'est important d'avoir un modèle théorique qui tienne un petit peu la route. C'est là où on arrive à la difficulté des troubles bipolaires chez l'enfant. C'est que le DSM-4, c'est le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, qui est le manuel de référence mondiale des psychiatres, et la CIMDIS, qui est donc la classification internationale des maladies, sont tous les deux des manuels qui recensent tous les symptômes d'une pathologie donnée. C'est une sorte de catalogue, en fait, des symptômes. Ce sont des manuels qui se disent athéoriques, qui sont purement empiriques, c'est de la description, d'ailleurs c'est ce qu'ils expliquent eux-mêmes dans leur préface, et qui ont été conçus au départ pour pouvoir faire des recherches cliniques. Parce que pour faire une recherche clinique, on est obligé d'avoir des ensembles homogènes de patients, enfin au moins des ensembles homogènes de pathologies. Mais avec cette difficulté que comme la psychiatrie s'adresse à des individus, on ne peut jamais avoir une pathologie homogène d'un patient à l'autre. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait de la clinique au quotidien. Donc justement, on va passer au trouble bipolaire de l'enfant et au trouble hyperactif, puisque les critères qu'on va utiliser pour parler des troubles bipolaires sont les critères du DSM-4, puisque toute la littérature internationale que j'ai lue pour préparer cette conférence se base sur les critères du DSM-4. Donc, le premier critère de l'épisode maniaque, puisqu'on va s'intéresser qu'aux troubles bipolaires avec manifestation maniaque chez l'enfant et l'adolescent, puisque les troubles unipolaires, c'est encore plus complexe, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, enfin, ce ne sera pas le thème de ce soir. Donc, pour l'épisode maniaque, le premier critère, c'est un critère temporel, c'est-à-dire une période nettement délimitée dans le temps, durant laquelle l'humeur est élevée de façon anormale et persistante pendant au moins une semaine. Donc ça, c'est la définition de l'état maniaque qui définit le trouble bipolaire de type 1. Et c'est un critère qui est inapplicable chez l'enfant. Ça, tout le monde s'accorde pour le dire. Les épisodes chez l'enfant, ils sont très flous, on ne voit pas le début et la fin. Enfin, c'est pas bien délimité comme ça dans le temps. Parfois, ça dure plus longtemps, parfois, ça dure moins d'une semaine. Donc, voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. Le trouble bipolaire de type 1 classique chez l'enfant, il est exceptionnel. Par contre, on peut se demander si ça ne vaudrait pas le coup d'élargir un petit peu les critères. Donc, il y a plusieurs praticiens qui ont réfléchi. Et il y en a un, donc Leibenluft, qui a proposé en 2003 un sous-groupe clinique qu'il a nommé Severe Mood Dysregulation, qui a été repris. Alors ce sous-groupe, il n'est pas reconnu au niveau international, mais il a été repris dans de nombreuses études. En quoi il consiste, ce sous-groupe ? En des symptômes maniaques chroniques et continus chez des enfants âgés entre 9 et 19 ans, qui ont des antécédents familiaux très variés, que ce soit des antécédents de bipolarité, des antécédents de dépression, de schizophrénie, donc au niveau antécédents psychiatriques, qui ont des facteurs environnementaux au premier plan, donc avec souvent des histoires de carences précoces, des histoires de maltraitance, des histoires de précarité sociale qui entraînent une instabilité du cadre de vie et qui présentent des troubles des apprentissages fréquents. Et on retrouvait une comorbidité élevée avec le trouble hyperactif. Et alors, suivant Leibenluft, il y aurait une prévalence de 3,3% chez les enfants entre 9 et 19 ans de severe mood dysregulation. Donc ça paraît séduisant comme hypothèse, après tout pourquoi pas, ça a l'air de concerner un grand nombre de sujets, et on pourrait se dire ben, effectivement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas adapter cette classification-là. Alors si on prend maintenant les symptômes de l'épisode maniaque dans le DSM-4, il va y avoir donc l'augmentation de l'estime de soi ou les idées de grandeur, la réduction du besoin de sommeil, le besoin de parler énormément, ce qu'on appelle la logorrhée, l'impression subjective que les idées défilent, le patient se plaint justement de ne pas pouvoir arrêter et se fixer sur une idée, les troubles de la concentration qui entraînent une distractibilité, l'augmentation de l'activité orientée vers un but ou une agitation psychomotrice, notamment chez l'enfant, et un engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables. L'exemple le plus fréquent qui est donné, ce sont les achats inconsidérés lors d'un accès maniaque. Donc ça, c'est des critères que vous connaissez tous. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple d'utiliser ces critères de symptômes maniaques chez l'enfant. Par exemple, si on considère l'augmentation de l'estime de soi, il faut faire bien attention à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose un petit enfant de 4 ans qui va vous dire « je peux courir aussi vite que la voiture » qu'un enfant de 10 ans. De la même manière, si un enfant petit croit que tout le monde peut voler comme Superman, on ne va pas parler d'idée de grandeur. Hein, on va parler de qu'il n'a pas encore acquis tous les principes de réalité. Donc ça, c'est la première chose, faire attention à l'âge et savoir à partir de quand est-ce qu'on peut parler d'augmentation de l'estime de soi. D'autre part, alors ça j'en parlerai un petit peu plus dans la diapo d'après, parce que ça concerne les biais des études, sur les termes ambigus des questions. Ensuite, si on considère par exemple le critère d'agitation, on sait que plus un enfant est jeune, plus il va s'exprimer par le corps, hein, que la clinique psychomotrice sera au premier plan. Et une agitation psychomotrice chez un enfant, ça ne signifie pas forcément qu'il y a un symptôme maniaque. Hein, il faut pouvoir considérer tout ce qu'il y a derrière. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a parfois une variance diagnostique. C'est-à-dire que les parents vont vous dire à la maison, il est intenable, il parle tout le temps, il regarde des films porno, il se couche à 4 heures du matin. Et puis, à côté, à l'école, on va vous dire non, finalement, ça se passe plutôt bien. Ce qu'on a constaté au cours de plusieurs études, et là, en dehors des troubles bipolaires, c'est que quand il y a une discordance entre les parents et les enseignants sur un enfant, en général, si l'enfant est hospitalisé et observé par l'équipe, l'équipe va retrouver aussi quelque chose de non pathologique. Par contre, s'il y a une concordance entre ce que disent les enseignants et les parents, en général, l'équipe hospitalière va retrouver la même chose et on sera plutôt dans quelque chose de pathologique. En tout cas, là, pour ce qui est de la question de la bipolarité, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi au cadre de vie dans lequel l'enfant évolue, et notamment s'il y a des principes éducatifs de base, à savoir des rythmes du sommeil, un petit peu de contenance ou pas du tout. Là, l'exemple que je vous citais, c'est un exemple qui est cité dans une étude. C'était justement un petit garçon de 5 ans pour lequel on se disait, oh là là, il a des troubles maniaques, il se couche à 4 heures du matin, il regarde des films porno, il répond à tout le monde. Donc il avait été hospitalisé en pédiatrie. Et on s'est rendu compte en quelques jours qu'il avait retrouvé un rythme de sommeil normal, que finalement il regardait des films mais qu'il traînait aussi à la maison à portée de main. Et que la familiarité, finalement, elle était rentrée assez vite dans l'ordre aussi, à partir du moment où il y avait eu des adultes qui lui avaient dit « tu parles pas comme ça aux gens ». Et que là, pour le coup, enfin, pour ce cas très, très précis, on était clairement dans un manque de cohérence éducative et pas du tout dans une symptomatologie maniaque qui aurait mis beaucoup plus de temps à rentrer dans l'ordre, quand bien même il y avait un cadre de vie peut-être plus adapté et plus contenant. Alors, excusez-moi, on va revenir à là. Je pensais que j'avais fait une diapo, mais j'ai dû oublier de la mettre. Une autre difficulté pour interpréter toutes ces études, c'est qu'effectivement, elles sont faites à partir d'échelles. En psychiatrie, en fait, quand on fait une étude, il faut savoir qu'on va faire à partir de beaucoup d'échelles. On va beaucoup de questionnaires. On va poser des questions directement au patient, il va remplir des auto-questionnaires. Et en pédopsie, on va aussi poser beaucoup de questions aux parents. Et c'est important de pouvoir se représenter la manière justement dont les questions sont posées. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension entre la question posée et la réponse donnée. Par exemple, si vous dites aux parents, est-ce que vous avez des idées de grandeur ? Est-ce que votre enfant a des idées de grandeur ? Bien s'assurer que les parents ont compris ce que ça signifiait. Parce que vous avez des parents qui vont dire « oui, il a des idées de grandeur », alors qu'en fait, ils pensent qu'il a pris la grosse tête depuis que son maître lui a dit qu'il était le meilleur de la classe. De la même manière, avec les enfants, il va falloir s'assurer qu'ils ont bien compris ce que vous demandiez. Certains enfants vont vous dire « oui, je pense que je suis le plus fort ». Et en fait, si vous cherchez un peu plus, si vous fouillez un petit peu plus, vous vous rendez compte que ce n'est pas qu'ils pensent qu'il est le plus fort, c'est qu'ils souhaiteraient être le plus fort, ce qui est quand même des choses différentes. De la même manière, on se rend compte aussi qu'il y a des enfants qui répondent oui à la question alors qu'ils n'ont pas compris et qui sont surtout dans le désir de faire plaisir à l'examinateur. Donc ça, c'est vraiment des biais de sélection importants dont il faut pouvoir tenir compte. Les autres difficultés de l'évaluation concernant justement la symptomatologie maniaque, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle les défenses maniaques de l'enfant. Alors qu'est-ce que c'est des défenses maniaques ? C'est un terme qui a été beaucoup utilisé en pédopsychiatrie européenne, qui n'est pas du tout utilisé par les Américains, parce que ça dérive des théories psychanalytiques. Les défenses maniaques, c'est des enfants qui présentent des syndromes dépressifs, qui ont tellement de difficultés avec la souffrance que ça engendre, qui préfèrent rentrer dans le déni. Alors tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Qui préfèrent rentrer dans le déni et chasser de toutes leurs forces cette souffrance et cette tristesse. Et ça va passer par une agitation, ça va passer par une fuite des idées, comme ça on n'a pas le temps de penser qu'on est triste, ça va passer par toute une symptomatologie qui peut donner un authentique tableau maniaque. Sauf qu'en général, c'est des enfants, quand on arrive à les poser un petit peu, qui vont s'effondrer très rapidement, sans qu'on soit forcément dans un tableau de troubles bipolaires de type 2. Les défenses maniaques, on peut aussi les retrouver chez des personnes à qui on annonce que quelqu'un vient de mourir et qui vont, par exemple, se mettre à rire, à parler beaucoup, hein, pour lutter contre cette réaction de tristesse. Les autres difficultés de l'évaluation, c'est l'impact des politiques de santé. Monsieur Lavignotte parlait tout à l'heure de l'émission qui va passer demain sur les 4000% aux États-Unis. Une des explications sur cette explosion des troubles bipolaires aux États-Unis, c'est que quand on veut prescrire un médicament antipsychotique atypique, enfin quelque chose qui est assez cher, alors c'est pas la sécurité sociale, mais ce médicament est remboursé par le système de soins américain à condition que le trouble bipolaire soit formellement diagnostiqué chez l'enfant. Hein, d'où probablement une surreprésentation des diagnostics. Là, je vous parle des États-Unis parce que c'était l'exemple qui était cité, mais c'est le cas pour tous les autres pays. Hein, finalement, suivant la politique de santé dans laquelle on est et dans laquelle on vit, les médecins vont être formés différemment aussi. Si vous êtes formé à repérer le trouble bipolaire, vous allez y penser beaucoup plus souvent que si vous êtes formé à penser à des défenses maniaques à chaque fois que vous voyez une symptomatologie maniaque. Donc ça a vraiment des conséquences importantes. Et puis les autres difficultés de l'évaluation, c'est donc tous les diagnostics différentiels, notamment avec les autres troubles des conduites externalisées, c'est-à-dire le TADA dont on va parler, et puis le TOP. Le TOP, c'est le trouble oppositionnel avec provocation, dont on ne parlera pas là aujourd'hui, mais qui fait partie aussi des diagnostics différentiels. Alors justement, le trouble hyperactif, je reprends les critères du DSM-4, il faut qu'il y ait au moins 6 symptômes d'inattention pendant les 6 derniers mois, ou bien 6 symptômes d'hyperactivité, impulsivité pendant les 6 derniers mois, sachant qu'on peut avoir des formes combinées, des formes où on a l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité qui sont ensemble. Il faut que ce soit apparu avant l'âge de 7 ans et que cela a été gênant déjà avant l'âge de 7 ans. Et il faut que ça entraîne une gêne fonctionnelle dans au moins 2 lieux différents, par exemple la maison et l'école. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que le TADA et le trouble bipolaire atypique juvénile vont présenter beaucoup de points communs. La logorrhée, on va la retrouver dans les deux situations. Les troubles de la concentration, c'est un peu la définition du TADA, on va la retrouver. L'impulsivité motrice, par exemple un enfant qui va se mettre à courir brutalement dans la rue sans que vous compreniez pourquoi, on va le retrouver dans les deux cas. On va retrouver aussi un déficit des fonctions exécutives avec des enfants qui vont avoir du mal à anticiper les choses, qui vont avoir du mal à s'organiser, qui vont avoir du mal aussi à reconnaître les émotions de leur interlocuteur et à pouvoir s'adapter aux émotions de celui-ci et à son état d'esprit. C'est des enfants qui vont souvent présenter des antécédents familiaux, soit de bipolarité, soit de TADA. Et c'est des enfants, là on parle vraiment des enfants, on ne parle pas des adolescents, qui vont présenter aussi, dans les deux cas, des facteurs de risque. Souvent des carences précoces affectives, avec un cadre de vie instable. Souvent aussi des souffrances périnatales. Alors, sachant que la souffrance périnatale, on la retrouve quand même plus dans le TADA que dans le trouble bipolaire juvénile. Mais avec très fréquemment une prématurité, des passages en néonate, sans qu'on sache bien pourquoi, quel est le lien entre cette souffrance périnatale et les manifestations du TADA par la suite. Alors, malgré tout, il y a quand même des différences entre le TADA et le trouble bipolaire atypique, et parfois des différences qui sont un peu ténues, qu'il faut bien fouiller. Par exemple, dans le TADA, on peut aussi retrouver des idées de grandeur, sauf que si on cherche bien ces idées de grandeur, ça va plutôt être un déni des déficits. Par exemple, ça peut être un enfant qui va avoir du mal à écrire, notamment parce qu'il ne se concentre pas bien, et qui vous dira « moi, je suis le meilleur de l'école pour écrire hein, », avec vraiment quelque chose de l'ordre de la vantardise et de la prestance. Alors qu'à l'inverse, dans le trouble bipolaire atypique, les idées de grandeur, ce seront franchement des idées mégalomaniaques, hein, où l'enfant vous dit qu'il est le sauveur du monde ou qu'il vole comme Superman. De la même manière, vous allez avoir des troubles du sommeil dans les deux cas. Mais dans le TADA, c'est plutôt un trouble du sommeil qui est lié à l'opposition. aux positions pour aller se coucher, ça peut prendre plusieurs heures. Dans le trouble bipolaire, c'est vraiment une diminution du besoin de sommeil, ce qu'on décrit typiquement, besoin de 3-4 heures de sommeil, et des gens qui sont en pleine forme malgré tout. Au niveau de l'activité, dans le TADA, l'hyperactivité, elle est indifférenciée, c'est-à-dire que l'enfant, vous avez l'impression qu'il frétille, qu'il passe d'une activité à une autre en 2 minutes, alors que dans le trouble bipolaire, c'est une activité qui est orientée vers un but, et l'enfant peut se concentrer plus longtemps. On peut retrouver aussi des attitudes de désinhibition. Dans le TADA, ça va être plutôt une familiarité excessive, une absence des règles sociales qui sont mal intégrées, et une désinhibition sociale qui est en lien avec l'impulsivité aussi, un enfant qui va vous sauter au cou parce qu'il trouve que vous avez l'air sympathique. Alors que dans le trouble bipolaire atypique, on sera plus dans une désinhibition sexuelle, avec des enfants qui peuvent tenir des propos très crus, avoir des attitudes sexualisées, ou avoir une attitude inadaptée envers vous. Dans le TADA, l'évolution va être d'un seul tenant. Alors dans le trouble bipolaire atypique, quand bien même les épisodes sont flous, il y a quand même une évolution épisodique. Et puis, il y a une tendance à l'amélioration dans le TADA, c'est-à-dire que vers l'adolescence, l'âge adulte, notamment les conduites d'hyperréactivité et d'impulsivité vont s'atténuer, alors que dans le trouble bipolaire, vous allez avoir une stabilisation ou une majoration des troubles. Voilà. Donc, la question qui se pose, et il y a énormément d'études là-dessus, énormément d'études qui sont toutes plus contradictoires les unes que les autres, donc ce ne sont que des questions, cette diapositive. La question qu'on se pose, c'est le lien qui existe entre le TADA et le trouble bipolaire. Il y a certaines études qui ont trouvé que plus un enfant qui souffrait d'un trouble bipolaire était jeune, plus il avait de risque de présenter un TADA, et notamment quand on était dans les situations de severe mood dysregulation. Par contre, il y a des études qui ont trouvé l'inverse, enfin qui ont trouvé qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'âge où on présentait un trouble bipolaire et le risque de présenter un TADA. Il y avait d'autres études qui demandaient si le fait d'avoir un TADA quand on était enfant n'était pas un facteur de risque pour développer un trouble bipolaire à l'adolescence ou à l'âge adulte, et qui ont trouvé plutôt une réponse positive. Puis à l'inverse, vous en avez d'autres qui trouvent aucune corrélation, ou alors pas de résultats significatifs. Donc c'est très compliqué pour se faire une opinion. Enfin, moi, je ne me suis pas faite d'opinion en lisant ça. Peut-être que vous pourrez vous en faire une en lisant davantage. Et puis, il y a une autre question qui est posée. C'est est-ce qu'on parle de comorbidité quand on a un enfant qui présente et une symptomatologie de TADA et une symptomatologie de trouble bipolaire, ou est-ce qu'au contraire, on est dans un TADA tellement sévère qu'on a l'impression d'avoir des symptômes bipolaires alors que c'est juste un marqueur de sévérité, ou à l'inverse, un trouble bipolaire tellement sévère qu'on a l'impression d'avoir un TADA en plus, alors qu'en fait, on est juste dans une évolution qui va de plus en plus mal. Et ça, toutes ces questions, on se les pose parce que là encore, ça a des conséquences pragmatiques au niveau thérapeutique. Alors, les conséquences, la première, c'est quand même le traitement médicamenteux. Un enfant qui souffre d'un trouble bipolaire, quand on lit les conférences de consensus, tout le monde dit qu'il faut... Enfin, le traitement de référence, c'est quand même le lithium. Mettre du lithium à un enfant, ça pose question, parce que les effets secondaires sont quand même très importants. Il faut pas se tromper dans les doses. Enfin, c'est vraiment quelque chose de grave. En même temps, c'est le lithium qui permettrait d'avoir le moins de risque de rechute. Alors, la deuxième classe thérapeutique, qui sera d'ailleurs plus souvent utilisée, c'est les anticonvulsivants. Et malgré tout, les anticonvulsivants, c'est pas anodin non plus. Il y a beaucoup d'effets secondaires, d'où ces questions. Et puis, une autre question qui se posait, quand on était justement avec une comorbidité TADA, trouble bipolaire, si on se demandait est-ce que les amphétamines qu'on donne à l'enfant pour son TADA, est-ce qu'elles ne vont pas majorer la symptomatologie maniaque qui est associée ? Alors, il y a eu une étude là-dessus, donc ce n'est pas beaucoup, qui trouvait que non, il n'y avait pas de risque, qu'au contraire, ça améliorait la symptomatologie maniaque de donner des amphétamines. Ce qui pose d'ailleurs question sur la comorbidité ou une évolution plus sévère du TADA. Par contre, ce dont les Américains se rendent compte actuellement, parce que ça fait longtemps qu'ils prescrivent des amphétamines, c'est que Effectivement, quand on donne des amphétamines à un enfant qui souffre d'un TADA, au niveau de l'impulsivité et de l'hyperréactivité, ça va se calmer assez vite. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a d'autres dimensions de souffrance qui continuent à persister. Ces dimensions de souffrance, ça va être ce qui est troubles anxieux et troubles dépressifs, qui en général passent complètement inaperçus parce que y a ces manifestations bruyantes qui vont occuper le devant de la scène. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que l'enfant, comme il ne fait plus de bruit, l'entourage est soulagé, s'inquiète parfois un petit peu moins, et qu'on retrouve des enfants qui sont aussi autant en souffrance, voire plus, que quand ils avaient leur TADA bruyant. D'où les conclusions récentes que bon, le traitement médicamenteux ne suffit jamais, ça c'était quelque chose qu'on savait, mais que c'était vraiment indispensable d'avoir une sociothérapie ou une psychothérapie associée, voire les deux. Et les conclusions récentes montraient justement des études psychothérapie dans le TADA versus traitement médicamenteux et qui montraient les mêmes résultats. Donc avec peut-être davantage d'intérêt à faire une psychothérapie puisqu'il y a quand même moins d'effets secondaires. Alors, le traitement psychothérapeutique, il est indispensable de toute façon quand un enfant est en souffrance psychique. Alors ça peut être d'inspiration analytique, ça peut être de la TCC, ça peut être des prises en charge familiales, mais il faut absolument pouvoir accompagner ces enfants et leurs familles pour casser les cercles vicieux mis en place par la maladie. Et puis parce que l'enfant ne se résume pas qu'à sa maladie et qu'à son trouble, et qu'il a une histoire, et qu'il est important de le considérer aussi dans sa subjectivité. La sociothérapie, alors on n'en fait pas beaucoup en France, c'est par exemple au Canada, il y a quelques classes qui ont été créées pour enfants bipolaires, bon aussi parce qu'au Canada il y a une prévalence beaucoup plus importante de troubles bipolaires qu'en France. Des classes à tout petits effectifs de 5 ou 6 enfants, avec 2 enseignants et avec une approche très, très personnalisée justement, parce que c'était des enfants qui se mettaient en échec scolaire. Donc, alors je ne sais pas pourquoi parce que je vais passer à ma troisième partie. Je vais regarder dans ma clé USB, je pense que j'ai peut-être pas bien enregistré. Sinon, je vais la faire de tête. Donc, ma troisième partie, je crois que j'ai oublié d'enregistrer ma troisième partie sur la clé USB. Donc, voilà. Donc, les troubles bipolaires à l'adolescence et les troubles du comportement. Donc, en fait, c'est des questions qui font moins polémique parce que les adolescents vont présenter plus de troubles bipolaires typiques ou légèrement atypiques, mais qu'on aura moins de mal à reconnaître. Donc, on a vraiment une meilleure connaissance de ce trouble. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le trouble bipolaire à l'adolescence ? Alors, plusieurs choses, parce qu'il y a quand même des spécificités qu'on ne retrouve pas chez l'adulte. La première, c'est au niveau de la fréquence. C'est souvent des épisodes qui vont être plus rapides dans le temps, ils vont faire des cycles rapides. Il y aura en général 4 épisodes maniaques par an. C'est des ados chez qui on va retrouver aussi des antécédents familiaux plus fréquents. Hein. Plus une personne fait un trouble bipolaire jeune, plus on retrouve des antécédents familiaux. Il y a ce qu'on appelle... Le symptôme d'anticipation, c'est-à-dire que plus vous avez de générations avant vous qui ont des antécédents de troubles bipolaires, plus vous avez un risque d'avoir un trouble bipolaire vous aussi, et de l'avoir jeune, et d'avoir une composante assez sévère. Et à l'inverse, on se rend compte aussi que chez les apparentés du premier degré, quelqu'un du premier degré d'un adolescent qui a un trouble bipolaire, ces apparentés ont plus de risques, eux aussi, de développer un trouble bipolaire. Donc il y a vraiment des composantes génétiques indéniables et qu'on retrouve particulièrement dans la classe des adolescents. La deuxième chose concernant la clinique du trouble bipolaire chez adolescents, c'est que souvent, ils vont avoir plus d'épisodes mixtes, donc épisodes maniaques et dépressifs en même temps, et puis aussi plus d'épisodes psychotiques, avec vraiment des syndromes délirants. Notamment pour les premiers épisodes. En général, ça a tendance à s'amender avec le temps. Après, ça fait des épisodes plus classiques de mélancolie ou de manie. Mais d'où la difficulté aussi de faire un diagnostic différentiel avec une schizophrénie débutante. Ça va être une des grandes difficultés face à un début de trouble bipolaire chez l'adolescent. Je réfléchis aux autres points, c'est bien, ça me fait comme un grand oral là devant plein de monde. Voilà pour les points principaux. Évidemment, il y a aussi un pronostic plus sévère, parce que comme la maladie commence plus jeune et qu'on sait que c'est dans les 10 premières années qu'en général le pronostic est le moins bon, notamment avec les idées de suicide et les tentatives de suicide, il y a un vrai risque de tentatives de suicide accru auquel il faut être très vigilant. Et puis voilà pour le moment. Alors la difficulté qu'on a pour diagnostiquer un trouble bipolaire chez l'adolescent, c'est qu'il faut tenir compte de l'adolescence en elle-même. L'adolescence, bon, comme vous le savez tous, c'est une période extrêmement mouvementée où il va y avoir des troubles de l'humeur de manière quasi permanente et qui sont physiologiques. Physiologiques parce que l'adolescent va osciller entre des moments de dépressivité intense et des moments d'euphorie tout aussi intense et parfois sur un temps très très court, très restreint, et le plus souvent en réaction à l'environnement. Donc ça, c'est parfois difficile de faire la part des choses. Le deuxième point qui est difficile à l'adolescence, c'est que c'est une période où l'adolescent va avoir une tendance à la dépressivité, parce que, outre les bouleversements physiologiques qu'il subit, il va y avoir plein de bouleversements psychologiques. Les bouleversements psychologiques, ça va être déjà de faire le deuil d'un certain nombre de choses. Faire le deuil de son corps d'enfant, accepter son corps d'adulte, ce qui n'est pas forcément évident, surtout à l'adolescence où justement on va pouvoir se centrer sur ses petits défauts. Donc avoir une auto-dévalorisation encore plus marquée qui va faire le lit de la dépression. De la dépressivité en tout cas. La deuxième chose, pouvoir se détacher de ses parents, les désidéaliser, pouvoir sortir de son rôle d'enfant et devenir autonome, ça ne se fait pas sans heurts et ça ne se fait pas sans douleur. Hein, d'où aussi un risque de dépressivité auquel les adolescents qui présentent des troubles bipolaires sont peut-être encore plus sensibles que les autres. Et puis, la troisième chose, c'est qu'à l'adolescence, et ça, adolescent bipolaire ou pas, un des moyens d'expression privilégiés, c'est le passage à l'acte. Le passage à l'acte, notamment le passage à l'acte violent. C'est là où justement la question des troubles du comportement vont se poser. Les troubles du comportement, qu'est-ce que c'est ? Alors, là aussi, si on reprend les critères du DSM-4, les troubles du comportement, il faut que ce soit que les ados présentent un symptôme depuis au moins 6 mois et 3 symptômes depuis au moins 12 mois, parmi 4 catégories. Ces 4 catégories, ce sont une hétéroagressivité physique envers les êtres humains ou les animaux. Il faut que ce soit des conduites de vol ou de vandalisme. Il faut que ce soit des conduites de destruction des biens. Et le dernier point, qui sont les transgressions à l'ordre établi. Donc c'est assez vaste. Et le DSM-4 va faire 2 sous-groupes. Un sous-groupe des troubles du comportement à début précoce, et un sous-groupe donc avant 10 ans, et un sous-groupe à début tardif, après 10 ans. Donc ça, c'est la partie très descriptive du DSM-4. Alors, il y a énormément d'écrits aussi sur les troubles du comportement. Peut-être que celui que vous avez le plus en tête, c'est celui qui avait paru en 2005, l'étude de l'INSERM sur les enfants de 0 à 3 ans, hein, dont on s'est beaucoup servi après pour justement extrapoler avec les adolescents. Une des hypothèses psychodéveloppementales des troubles du comportement, c'est de se dire que ces deux sous-groupes, ils ont certainement des psychopathologies différentes. Le sous-groupe des moins de 10 ans, on retrouve davantage le garçon, on retrouve davantage de carences affectives précoces, on retrouve davantage de TADA, un faible niveau intellectuel, beaucoup plus d'agressivité. Et une des hypothèses qui est faite, comme il y a beaucoup d'agressivité, une mauvaise relation avec les autres enfants de leur âge, et une des hypothèses qui est faite, c'est de se dire justement, comme il y a eu ces carences affectives précoces, ces enfants ont du mal à avoir accès à leurs émotions et ont du mal à avoir accès aux émotions qui socialisent. Les émotions qui socialisent, c'est la culpabilité et l'empathie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est justement pour les troubles du comportement à début tardif, qui sont de bien meilleurs pronostics, qui concernent autant les filles que les garçons, où la relation avec les ados de leur âge est conservée et où il y a moins d'agressivité. Donc c'est surtout des conduites de transgression. L'idée, c'est de se dire, c'est peut-être une exacerbation de l'affirmation de l'identité qui a lieu à l'adolescence. C'est juste une des théories, hein. Il peut y en avoir plusieurs. Toujours est-il que ces troubles du comportement, qui sont beaucoup plus fréquents que les troubles bipolaires chez l'ado, troubles bipolaires, on va dire 0,25%, troubles du comportement plutôt 2 à 3%, il faut quand même s'en méfier parce qu'ils peuvent masquer un trouble bipolaire. Alors pourquoi ils peuvent masquer un trouble bipolaire ? Parce que dans la symptomatologie maniaque, vous pouvez avoir là aussi, au premier plan, des troubles du comportement. Des conduites addictives, par exemple. Une étude retrouvait qu'il y avait 46% d'ados présentant un épisode maniaque qui avaient des conduites addictives, contre 7% dans la population générale de leur âge. Alors pourquoi ces conduites addictives ? On suppose que c'est à but d'autothérapie. Mais ça entraîne aussi le risque de marginalisation et de mésestime de soi. Il va y avoir aussi tout ce qui est justement en lien avec l'épisode maniaque et les idées de grandeur, toutes les attitudes de prestance, les attitudes d'opposition qui sont aussi en lien avec l'adolescence et qui peuvent emmener à des transgressions et là aussi à une marginalisation. Du fait des symptômes maniaques, on a tout ce qui est hypersexualité qui va être très présent et qui peut donner un aspect comme ça de trouble du comportement, avec notamment des prises de risques inconsidérées, des partenaires multiples, et ça peut aller jusqu'au viol, que ce soit que l'adolescent se fasse violer ou viole quelqu'un d'autre. Donc des choses assez lourdes. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre de l'échec scolaire, d'abord de par les troubles de la concentration, de par l'asthénie aussi qu'on peut retrouver, et puis aussi de par des conduites d'opposition qui peuvent être liées et qui là aussi vont entraîner une spirale de l'échec. Donc tout ça, c'est important de l'avoir en tête quand on est face à des troubles du comportement, pouvoir bien éliminer un trouble bipolaire avant de se dire qu'on est face à des troubles du comportement autre pathologie associée. C'est important aussi de pouvoir l'avoir en tête parce que les conséquences médico-légales ne seront pas les mêmes. Avoir des conduites délinquantes quand on est en plein épisode de manie délirante, ça n'a pas les mêmes conséquences que quand il n'y a pas de troubles psychiatriques autres associés. Et puis, ça a des conséquences, là aussi, au niveau thérapeutique, comme chez l'enfant, concernant les questions médicamenteuses, concernant les prises en charge institutionnelles aussi, que ce soit les hospitalisations ou les mesures d'accompagnement qu'on peut être amené à proposer. Donc voilà ce qui concerne les troubles des conduites et le trouble bipolaire à l'adolescence. Donc en conclusion, je pense que ça laisse beaucoup de questions et que ça amène pas forcément beaucoup de réponses. Mais c'est peut-être pas un mal qu'on ait tant de mal justement à définir les troubles bipolaires. Ça montre aussi toute la complexité de l'être humain et le fait qu'on ne peut pas réduire les gens à une pathologie ou les réduire à une case. Et ça montre aussi toute l'importance qu'il peut y avoir dans une relation thérapeutique. On aura besoin de prendre du temps, de tisser un lien de confiance et d'accompagner la personne pour comprendre aussi ce qui se joue en deçà des symptômes. Et l'aider, en tout cas, c'est l'idéal qu'on peut avoir, à ne pas subir la fatalité de sa maladie et à devenir acteur de sa vie. Ou à le redevenir. Voilà.
Merci, docteur. C'est les questions maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a un peu de temps pour ça. Est-ce que des personnes ont des questions ? Voilà, on y va tout de suite. C'est toujours la première question.
Merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Je connais des malades bipolaires adultes qui disent que dans leur adolescence, ils ont fait des rêves cauchemardesques vraiment très forts et répétitifs. C'était toujours le même rêve qui les réveillait, c'est-à-dire une armoire qui tombe sur la femme qui racontait ça. C'était toujours une armoire qui tombait sur elle et se réveillait en sursaut. Et une autre personne disait, lui-même est diagnostiqué bipolaire également, Il disait qu'il était toujours réveillé par un camion qui l'écrasait. Voilà. Et ce sont deux personnes diagnostiquées bipolaires. Faut-il généraliser ces deux cas et si dans leur enfance, on leur avait dit bon, ben vous êtes, on va essayer de voir si vous êtes bipolaire ou pas, peut-être que ça aurait changé la tournure de leur traitement par la suite. Est-ce que, enfin, on aurait pu leur dire quelque chose de la sorte? Est-ce qu'on aurait pu parler de bipolarité déjà à l'âge adolescent?
Alors, juste avec des rêves traumatiques, c'est compliqué de pouvoir parler de bipolarité à l'adolescence. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les événements de vie stressants vont précipiter peuvent précipiter une entrée dans la bipolarité, ou en tout cas une décompensation de bipolarité, de vie stressants. Là, les cauchemars qu'ils font, après, je ne connais pas leur histoire, mais peut-être qu'il y a eu des traumatismes réels dans leur vie qui se rejouaient aussi par l'intermédiaire des cauchemars. On était peut-être dans des syndromes de stress post-traumatique, je ne sais pas du tout. Par contre, à partir d'un rêve traumatique, c'est compliqué de... Enfin, on ne peut pas faire un diagnostic de bipolarité.
Une autre question? Oui.
Je voulais savoir, quand est-ce que vous dites, vous faites commencer l'adolescence? Parce que par rapport à ce que vous avez décrit, c'est des symptômes qu'on retrouve chez des enfants plus jeunes. Enfin, alors, je voulais savoir exactement quand vous mettiez la barrière.
Alors moi, j'ai repris ce que je retrouvais dans la plupart des textes, c'est-à-dire à 13 ans. Sachant que souvent, il y avait une période d'intervalle libre entre 13 et 15 ans. C'est les grands oubliés des études médicales.
D'autres questions? Oui, bien sûr.
Je voulais savoir... qui préconisait le lithium pour les enfants et quel pays? Parce que pour moi, les États-Unis, le Canada préconisaient essentiellement les anticonvulsivants pour des jeunes enfants. Donc j'ai été très surprise quand vous avez parlé de lithium pour des petits. Quoi.
Alors, c'est dans l'encyclopédie médico-chirurgicale qui est française. Après, je pense qu'il se réfère beaucoup à des textes de la littérature. Je n'ai pas regardé leurs sources. Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans la pratique clinique, notamment à la Salpêtrière, qui est quand même le centre de référence des troubles bipolaires de l'enfant et de l'adolescent en France, le lithium, je ne l'ai jamais vu prescrit. C'est quand même les thymorégulateurs, les antiépileptiques qui sont prescrits. Mais voilà, dans les textes de référence que vous retrouvez, c'est le lithium qui est mis en première intention. Voilà.
Une autre question? Quelqu'un?
À Salpêtrière, il se construit. Vous avez peut-être vu aux informations récentes l'ouverture du ICM, Institut Moelle Épinière Cerveau. Cerveau, moelle épinière plutôt. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour les bipolaires? C'est un centre qui vient d'ouvrir à la Salpêtrière dans le 13e.
D'accord.
Même si vous savez pas.
Alors moi, j'en ai pas entendu parler de ce centre. Par contre, pareil à la Salpêtrière, justement, ils peuvent être amenés aussi, quand les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas, à faire des sismothérapies chez les adolescents. Et c'est le seul centre en France qui le fasse. Voilà. Mais c'est après le centre dont vous parlez, j'en ai pas entendu parler. Voilà. Les sismothérapies, c'est ce qu'on appelle aussi l'électroconvulsivothérapie. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'électrochoc.
Oui, on n'a pas peur d'employer le mot. Enfin, Argos n'a pas peur d'employer le mot, en tout cas. On a fait, il y a 2-3 ans, une conférence avec le docteur Lévy, qui est médecin référent pour les ECT. Donc, voilà. Et nous, on s'accorde à penser dans notre association que quand il faut, il faut. Voilà, il n'y a pas de souci.
À
quel moment vous, on vous emmène des enfants et pourquoi on vous emmène des enfants? On n'a pas a priori l'idée qu'ils soient bipolaires.
Non, c'est très rare. Enfin, moi, j'ai jamais eu personne qui m'a amené son enfant en disant je viens parce que je pense qu'il est bipolaire. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose très peu en consultation, peut-être pas assez. Et les motifs de consultation, ça peut être très 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 varié, aller justement de petites choses développementales à parfois des symptomatologies déjà très envahissantes. On ne comprend pas pourquoi ça a mis autant de temps.
Mais qui inquiète les parents ou que le médecin traitant envoie?
Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être les parents, ça peut être... Alors, quand c'est tardif, c'est plutôt l'école. C'est l'école qui envoie beaucoup. L'école, le médecin traitant ou les services sociaux.
Est-ce que vous pourriez un peu développer sur la prise en charge de la famille? Est-ce que vous en avez parlé, mais ici, il y a essentiellement des adultes, donc peut-être des parents. Donc à quoi peuvent-ils s'attendre de la part de l'hôpital?
Alors, quand un adolescent est hospitalisé, la majorité des services hospitaliers de pédopsie en France vont solliciter les parents pour des entretiens familiaux hebdomadaires, avec souvent une partie, c'est un peu stéréotypé, une partie où les parents sont vus seuls, peuvent justement faire part de leurs inquiétudes, de leurs questionnements, de leur colère aussi, hein, ce qui peut arriver assez fréquemment, de leur souffrance. Et puis ensuite, il y aura une partie où l'adolescent sera présent. Et ça, en général, c'est très centré sur le temps de l'hospitalisation, sur comment aider la famille à traverser cette phase aiguë. On peut parfois être amené, alors pas dans tous les centres, ça dépend aussi des pratiques de chacun, à rencontrer les fratries, qui peuvent être aussi très démunies par rapport à la souffrance de leurs proches, et puis pouvoir répondre aux questions, parce qu'on a souvent des questions justement sur la génétique, sur l'hérédité, hein, auxquelles on peut pas toujours rassurer les personnes, mais au moins donner des informations un petit peu claires. Et puis ensuite, à la sortie de l'hospitalisation, très souvent, on va continuer à accompagner l'adolescent sur des suivis hebdomadaires ou bimensuels. On prendra un temps avec les parents à chaque fois pour justement faire le point et puis réfléchir aussi à la dynamique familiale qui a été forcément perturbée par la maladie et voir comment on peut s'arranger, enfin comment on peut arranger un peu les choses.
Merci. Bien, une autre.
Quand vous dites que vous posez un diagnostic, vous faites tout de suite le lien avec un médicament. Or, vous nous avez présenté par exemple pour l'hyperactivité, il n'était pas forcément question d'une médication systématique. Pourquoi, quand on est en présence de troubles de l'humeur chez l'enfant, quelque chose de pas aussi typique que le BP1, on ne met pas en place, vous ne posez pas le diagnostic, et derrière, parce qu'il y a cette peur de médication, ou est-ce qu'on peut très bien envisager la chose avec une aide type aide à la famille, psychothérapie, TCC, gestion des émotions, etc. pour l'enfant, quoi.
Je crois que vous,
pour la famille.
Je crois que vous posez une bonne question. C'est vrai que moi, je suis influencée par ma formation française et européenne. C'est vrai qu'on a aussi tendance à dire un diagnostic aussi... grave que la bipolarité, ça entraîne un traitement médicamenteux, notamment un trouble bipolaire de type 1, sans justement pouvoir nuancer. Je crois que ça fait partie des nouvelles questions qui se posent avec faire ou pas des sous-types pour les enfants, avec peut-être une graduation dans l'intensité, et ne pas immédiatement utiliser des traitements médicamenteux. Je crois qu'il y aura aussi besoin de toute façon d'une évolution dans la manière de considérer cette maladie, hein, puisque pour nous, ça signifie encore quelque chose de très grave. Enfin, en tout cas, trouble bipolaire de type 1 chez un enfant, pour nous, c'est quelque chose de très grave. Après, le SMD, justement, les Américains ont l'air de l'avoir bien apprivoisé, ou peut-être un peu trop, justement, parce que passer à 4000% de d'augmentation, ça pose aussi question. Et puis avec l'autre crainte qu'on a, qui est aussi vraiment de ne pas stigmatiser l'enfant avec un diagnostic, parce que ça, c'est des choses qu'on peut voir de manière assez régulière. À partir du moment où on a posé un diagnostic de TADA, par exemple, enfin le trouble bipolaire, je ne peux pas vous en parler, mais le TADA, parfois, ça explique tout et n'importe quoi. Hein, et parfois, bon, l'enfant a un TADA, ok, mais il a le droit d'être triste, il a le droit d'être en colère, et ses parents ont le droit aussi de lui dire, là, ça suffit, tu montes dans ta chambre, enfin... de poser des principes éducatifs aussi. Tout ne peut pas être expliqué par la maladie. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette prudence-là qu'on a, de ne pas poser un diagnostic trop vite, d'une part parce qu'une fois qu'on l'a posé, on sait qu'il reste là pour longtemps, et puis d'autre part, que ça n'enferme pas l'enfant dans quelque chose dont il ne pourra plus sortir après.
Une dernière ? Ou pas, d'ailleurs. On a du temps, donc on peut prendre le temps de réfléchir et de formater.
Oui, je voulais savoir, en fait, par rapport aux États-Unis, en fait, à l'augmentation des traitements, on sait qu'il y a un lien assez important, a priori, par rapport au coût de la santé et du fait qu'on impose peut-être aux médecins américains, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rentable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, d'avoir peut-être, je ne sais pas, en France ou en Europe, le même type d'évolution par rapport au fait que les psychothérapies, ça prend du temps, que voilà, donc c'est long, donc c'est coûteux, donc c'est beaucoup de personnel, et que finalement, cette augmentation en termes de médicaments, c'est une réponse rapide, effectivement, pour... on met le chapeau, enfin, on met le couvercle sur la casserole et puis on ne se pose plus de questions, quoi. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver, en fait, chez nous Enfin, je ne sais pas, vous parliez de l'enquête de l'INSERM en 2005. On a aussi les gens qui nous disent que le scanner ou les IRM, ça va tout expliquer. On va trouver dans le cerveau où est le problème, on va mettre le doigt dessus et puis on réglera tous les soucis. Quoi.
Mmh. Alors, c'est vrai que c'est une des craintes qu'on peut avoir de manière régulière en psychiatrie. Après, quand je vois le tollé que ça suscite à chaque fois, par exemple l'enquête de l'INSERM en 2005, ça n'a pas laissé grand monde indifférent. Il y a eu énormément de mobilisation et finalement, ça a aussi mobilisé beaucoup de cliniciens pour réfléchir à cette question des troubles du comportement et pour trouver des consensus intéressants pour la pratique. Alors effectivement, c'est un risque, hein, notamment quand on parle d'économie de la santé, de réduction, enfin d'économie pour la sécurité sociale. Après, j'ai l'impression que notamment les personnes qui travaillent en psychiatrie, puis beaucoup de personnes, enfin beaucoup du grand public, ont quand même une tendance à réagir assez vite quand on parle de tout médicaliser et de mettre des médicaments. Mais effectivement, je crois que la vigilance reste de mise et pouvoir se mobiliser aussi est important.
Oui.
Oui, bonsoir. Je connais pas bien le trouble bipolaire, mais j'ai rencontré beaucoup d'enfants hyperactifs. Et je voudrais dire que la Ritaline, puisque personne n'a prononcé le mot, c'est la pénicilline, c'est pas bon en soi. L'insuline, c'est pas bon en soi. L'intervention de l'appendicite, c'est pas bon en soi. Les médecins, moi je suis médecin, je crois qu'on a tendance à penser qu'un médicament, il est bon quand l'indication, elle est bonne. Et donc, je suis... quelqu'un qui ne peut pas prescrire la Ritaline, mais qui l'a proposé à d'autres praticiens pour qu'ils la prescrivent. Et ça a complètement transformé la vie de certains enfants. Je crois que ça sauve certains enfants et certaines familles. Et en particulier, les injonctions éducatives qui devraient être effectivement celles de toutes les familles. Lorsque l'enfant zappe en permanence et n'est pas capable de se poser sur quelque chose, il n'est pas plus capable de se poser avec les injonctions éducatives de ses parents que de se poser à l'école pour apprendre à lire. Et c'est vrai qu'on voit parfois des enfants, après 3 semaines ou 1 mois sur Ritaline, progresser considérablement, à la fois en lecture, mais à la fois aussi dans le comportement que les parents attendent de lui, avec un grand apaisement de la famille. C'est des enfants qui n'osent pas laisser leur enfant sortir seul. C'est des enfants qui sont en permanence brimés, qui sont en permanence sous la surveillance de leurs parents, et qui souffrent considérablement. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas stigmatiser ni les économies de santé, ni les laboratoires, mais de considérer qu'un médicament, quand l'indication est bien posée, il peut transformer considérablement la situation de l'enfant, la situation de ses parents. Voilà, c'est tout.
Mais je suis d'accord avec vous.
Je voulais juste dire que j'ai beaucoup apprécié votre intervention, parce que je ne suis pas du tout de ce champ-là, je suis plutôt du camp des neurosciences, et c'est très agréable, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, ce n'était pas très évident de trouver un psychiatre qui intervenait avec justement ce grand panel d'éclairages divers et variés, et qui ne sont pas opposables, mais complémentaires. Donc je vous remercie.
J'arrive, madame, j'arrive.
Donc, quand on a diagnostiqué des troubles bipolaires, on sait qu'on ne guérit jamais. Le traitement, par exemple, si tu as un enfant, il faudra continuer toujours. Qu'est-ce qui se passe à l'arrêt du traitement, quoi ?
Qu'est-ce qui se passe à l'arrêt du traitement ? Oui, c'est une bonne question. Les troubles bipolaires, ça fait partie des maladies chroniques. Alors parfois, moi je ne peux pas vous parler justement de ce qu'on fait pour un traitement avec des troubles bipolaires puisque je n'ai pas eu l'occasion. Par contre, parfois pour les bouffées délirantes aiguës chez l'adolescent, on peut être amené à prescrire un antipsychotique pendant plusieurs années. Et puis, au bout d'un moment, quand il est bien stabilisé, pouvoir proposer de diminuer le traitement, voire de l'arrêter. Alors, pour les troubles bipolaires, voilà, je n'ai vraiment pas assez de connaissances là-dessus pour pouvoir vous dire si on peut être amené ou non à diminuer un traitement, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, pour certaines autres maladies chroniques en psychiatrie, c'est possible de faire des breaks, en tout cas.
Alors, je vais donner une réponse, non pas médicale, parce que à Argos, personne n'est médecin ou infirmier, mais le psychiatre, ce que nous observons parmi nos amis, c'est qu'il y a un dialogue permanent entre le psychiatre et le patient, et que le traitement va évoluer doucement. Alors, rarement à zéro, mais on va partir avec une ordonnance un peu grande, et elle peut finir avec plus qu'une ou deux lignes, voilà. Avec d'autant moins d'effets secondaires, etc. Voilà, c'était l'avis d'un profane.
Est-ce qu'il y a une comorbidité entre les troubles bipolaires et les TOC ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez soit constaté, soit lu dans la littérature ? C'est une petite question, peut-être embarrassante.
Alors, constaté, non. Lu dans la littérature, chez adultes, oui. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce sujet. J'ai vu aussi une étude qui existe chez les enfants que je n'ai pas lue. Donc, je sais qu'elle existe. On peut la trouver sur PubMed. Mais je n'ai pas lu du tout le résumé.
Qui veut l'attraper ? Donc on va en rester là. Merci beaucoup, docteur Dubus. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. J'ai oublié de préciser que vous étiez pédopsie à Laborie, à l'hôpital Laborie. Voilà, donc public, le public, ouais. Et qu'il nous faut garder un service public de qualité malgré toutes nos inquiétudes. Et je fais la transition sur ce que monsieur disait là un peu. Une conférence, une table ronde qui aura lieu le 7 octobre, c'est très bientôt, sur la psychiatrie mais la liberté. J'ai un exemple, on a un exemple, un petit exemple. Il y a aujourd'hui à l'hôpital des jeunes adultes qui sont en hospitalisation d'office pour être en HO. Il faut avoir fait des bêtises, troubler l'ordre public, etc. Comme vont les choses aujourd'hui, ces jeunes vont y rester longtemps. Le préfet, et pas lui seul, tout le système va faire en sorte qu'ils sont là-bas, ils nous fichent la paix. Je vais avoir des ennuis peut-être, mais c'est ce que je pense. Et la conférence, et la table ronde, c'est celle-là en fait. Psychiatrie et liberté, c'est un peu compliqué ce qu'ils ont écrit, mais je l'ai résumé par un exemple. Peut-on garder quelqu'un en prison pour ce qu'il pourrait faire à sa sortie ? C'est la même chose, on reboucle là-dessus. 7 octobre 2010, 20h30, avec le professeur Senon et le docteur Halimi. Voilà. La conférence est enregistrée, vous la retrouverez bientôt sur le site de Mendes, Il y avait encore une... Ici, bon, le... j'arrive pas à réduire cette de feuille. Là, c'est ici. Ici, 20h30. Voilà. Et j'oubliais quelque chose. Des dépliants de l'association, ici, si vous voulez. Merci d'être venu. À bientôt.
Bravo.